Voilà, alors le sujet de ce week-end, c'était, vous savez qu'on fête le 50e anniversaire du Concile Vatican II, et donc on va essayer d'approfondir durant ces différents week-ends quelques réflexions qui nous viennent de ce Concile. Nous avons réfléchi la dernière fois sur le mystère de l'Église, Lumen Gentium, lumière des peuples. Qu'est-ce que ça signifie? On a choisi ce week-end un autre document du Concile, le dernier document qui a été publié en 65 par le Concile, qui s'appelle Gaudium et Spes. Alors c'est toujours ces noms latins, vous savez que tous les documents du Saint-Siège commencent par les mots latins du texte latin, les deux premiers mots, qui caractérisent en quelque sorte le sujet du document. C'est un document qui a été extrêmement important, auquel a participé et a collaboré de manière très très étroite un certain cardinal polonais qui s'appelait Karol Wojtyła, évêque encore à l'époque plutôt, et qui a été un des secrétaires de la commission qui s'est chargée de rédiger ce document. Ce document concerne la vie de l'Église dans le monde, et finalement, voyez-vous, une des grandes grâces du Concile Vatican II, c'était de se dire, mais comment penser ce monde? Comment penser ce monde nouveau qui est en train de naître? On avait vécu un traumatisme quand même assez important à un moment donné, avec l'arrivée des Lumières, avec une sorte de laïcité antichrétienne, avec une revendication de la foi. On a repoussé la foi dans le domaine de la vie privée, on a voulu l'exclure de la vie publique, dans tout un contexte culturel européen. Et finalement, l'Église s'est trouvée un peu désarçonnée par rapport à cette position qu'elle perdait depuis l'édit de Constantin en 313, ou plutôt depuis la reconnaissance de l'Église chrétienne comme étant la religion d'État de l'Empire romain vers 381, comme ça. Voilà, donc ça faisait quand même un statut, on avait tracé tout le Moyen-Âge, on avait bien sûr eu la crise de la Renaissance au 15e, 16e, siècle, on a vu la division politique de l'Europe autour des confessions catholiques et protestantes essentiellement, et puis la grande division avec l'Orient chrétien, bien sûr, déjà auparavant, au 11e siècle, et là on ne savait plus très bien comment réagir devant la montée de ce qu'on appelait le modernisme, avec les idées libérales, une façon de voir la société, une façon de voir la personne humaine, une façon d'envisager le rapport Église-État, une façon de voir la place de la morale, ou même le sens même de la morale. Qu'est-ce que ça signifie, la morale? Avec, j'allais dire, l'éjection de l'idée qu'il existe une loi naturelle, qu'il existe une loi inscrite dans le cœur de l'homme, par le Créateur lui-même, et qui nous dit le mode d'emploi du bonheur. La loi devenait ce que l'État décide, ce que la majorité décide, indépendamment de toute loi inscrite dans la nature des choses, préalablement par le Créateur. Et c'était quand même une révolution au niveau du droit. Voyez-vous, jusque-là, le droit était toujours cette façon de lire cette naturelle pour la transcrire en acte législatif, de telle sorte que le droit d'une société, la loi qui gouverne une société, soit cohérente avec la loi du cœur de l'homme et les lois naturelles. Benoît XVI a eu une très belle lumière là-dessus quand il a parlé devant le Parlement allemand. Vous savez que tous les écologistes se sont cassés. Ils n'ont pas supporté qu'il soit là. Comment se fait-il qu'un homme comme ça vienne nous parler à nous? Et c'est dommage parce qu'il y avait une parole qui leur était adressée. À un moment donné, Benoît XVI dit, écoutez, je suis vraiment très très ému et très touché que ce soit dans mon pays d'origine que la conscience écologique s'est vue aussi forte que ça. Et que tout d'un coup, elle a appliqué un grand mouvement de conscience, un grand mouvement politique également, avec des gens qui sont représentés ici dans ce Parlement, parce qu'on s'est rendu compte tout d'un coup qu'il y avait des lois de la nature qui ne pouvaient pas être violées impunément. Et les tragédies écologiques que nous découvrons, que nous vivons, les destructions de la création, nous montrent qu'on ne peut pas violer impunément la création. Eh bien, j'ai un scoop à vous révéler, enfin, il n'a pas dit comme ça, mais l'idée c'est la suivante. Il existe aussi une écologie humaine. Et quand on ne respecte pas la loi du cœur de l'homme, eh bien, il y a des conséquences tragiques qui en découlent également. De la même manière que la pollution, la destruction de la couche d'ozone, ou je ne sais quoi, suivent une sorte de maltraitance qui est faite à cet univers qui nous entoure, eh bien, de la même manière, quand on maltraite le mode d'emploi du bonheur inscrit dans le cœur de l'homme, c'est pas sans conséquence. Si on maltraite la façon de vivre les uns avec les autres, à travers le mariage, à travers la vie en société, la politique, eh bien, il y a des conséquences tragiques qui en découlent également. Et il serait temps de redécouvrir le sens profond de l'écologie humaine en particulier, pour redonner sens à notre monde. Et c'était lumineux comme manière de voir, comme si aujourd'hui on réapprenait de cette catastrophe écologique qui nous entoure, ou en tout cas de ces émergences de phénomènes écologiques, on réapprenait que finalement on ne joue pas impunément avec la nature, et que la nature humaine est aussi une nature.